et traducteur du russe. Alors, pourquoi récit? Qu'avez-vous voulu dire dans ce livre, L'Appartement?
J'ai rien voulu dire de particulier, à vrai dire. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans un moment bizarre où j'ai parlé d'un appartement qui n'existait plus, celui de l'enfance de notre famille à Leningrad, qui avait été Saint-Pétersbourg et qui, du temps de mon enfance, était Leningrad.
Et qui restait Leningrad jusqu'en 1990.
Voilà, voilà. Et ma grand-tante est née à Saint-Pétersbourg et a vécu toute sa vie à Leningrad sans bouger. Et puis cet appartement a disparu, enfin cette chambre dans un appartement communautaire qui réunissait en fait tout ce qui faisait la vie de mon enfance. Toute la mémoire de la famille, toute la littérature, tous les livres, tout. Et ça a disparu à la mort de ma grand-tante qui est décédée quand elle avait 100 ans. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé avec mes premiers droits d'auteur. Et j'ai acheté un autre appartement à Pétersbourg, cette fois à Pétersbourg. Et je parle de la façon dont un lieu physique ne remplace pas un lieu mental. Et comment ça se fait que maintenant, dans cet appartement que j'ai encore à Pétersbourg, je n'y sois pas? Comment est-ce que on peut vivre à la fois dans deux temps? Le temps concret, normal, celui là où on parle, et puis celui de l'enfance, et comment les deux temps s'empêchent mutuellement. Et donc, c'est une espèce de réflexion, c'est un récit aussi, parce que bon, voilà. Et c'est aussi un truc très bizarre pour moi, parce que c'est autobiographique. Et alors, voilà. Et un traducteur est pas trop habitué à, comme ça, à être autobiographique, mais un traducteur, c'est aussi un écrivain.
Certainement. Et la question que je me pose en lisant votre livre, c'est en quelle langue l'avez-vous écrit? Ce livre est étonnant parce que c'est en effet un récit de votre travail, un récit aussi de votre enfance, il y en est très souvent en question, ainsi que de votre famille, de vos premières lectures, de vos premières expériences de traduction du russe vers le français. Et tout ça est écrit avec un maître spécial, parce que on a l'impression que c'est un poème. On peut dire d'ailleurs que c'en est un, mais en effet, vous allez à la ligne à peu près toutes les 10 syllabes.
Comment ça à peu près?
Je dis à peu près parce que tout dépend de la façon dont on oralise etc.
Il y a tout le temps 10 syllabes.
Il y a toujours 10 syllabes, mais pour le lecteur, parfois, on en compte 11, on en compte 9.
Ah oui, non, il y en a 10.
Ça dépend. Il y a 10 syllabes, ce n'est pas un décasyllabe. Alors, vous parlez de pentamètre. Expliquez-nous un tout petit peu. D'abord, quelle est la métrique? Quel est le tempo, si vous voulez, de tout ce texte?
Mais je suis très sensible au fait que vous me posiez la question de savoir dans quelle langue j'ai écrit.
C'est vraiment la question que je me pose.
Mais oui, mais parce que, comment vous dire, j'ai écrit ça dans deux langues qui font une, naturellement en français. Mais la métrique que j'entends, c'est pas la métrique française. C'est la métrique russe qui elle-même vient de la métrique allemande, qui elle-même vient de la métrique anglaise. Et le vers que j'ai utilisé, c'est un vers de 10 syllabes, mais c'est pas un vers de 10 syllabes, c'est un vers de 5 accents iambiques. Un iambe, c'est tout simple, hein, c'est une unité de 2 avec accent sur la deuxième, papam. Mm-hmm. Et donc c'est papam, 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 papam.
Voilà. Sauf que des accents, en français, on n'en a pas. Ou en tout cas, beaucoup moins.
Ils ne sont pas sentis comme tels.
Ils ne sont pas sentis, absolument. Voilà. Ce n'est pas une langue accentuée.
Voilà. Et donc, j'ai conçu mon texte dans deux rythmes, je dirais, différents. Le premier, c'est qu'il y a des poèmes que j'ai réellement traduits et qui sont réellement écrits en russe, en pentamètre iambique, c'est-à-dire en gros, en décasyllabe russe, et que j'ai d'une façon ou d'une autre essayé de recréer en décasyllabe français accentué, ce qui n'existe pas, mais moi je l'entends comme ça, et sans blague, il n'y a pas... Voilà. Et ça, c'est des poèmes de Anna Akhmatova, de Pushkin, de Khedasevich, de Arseniy Tarkovsky, donc le père du grand cinéaste.
Du cinéaste, oui.
Voilà.
Alors, une petite question avant que vous continuiez. Tout votre récit est émaillé de petits poèmes que vous avez traduits. Ce sont des inédits, ce sont des traductions à vous qui sont déjà anciennes, des traductions spécialement faites pour ce livre?
Non, pas tout. Celui de Pushkin a déjà été publié dans Le Soleil d'Alexandre, qui regroupait les poèmes lyriques de la génération de Pushkin. Tous les autres ont été faits, finalement, pour ce livre-là.
En guise d'exergue, par exemple, qui est un texte de Anna Akhmatova.
A été fait pour ce livre-là. Mm-hmm. C'était un texte de base Et donc voilà. Et le deuxième partie, c'est-à-dire là où je parle moi-même, eh ben je compte simplement 10. Et je vais à la ligne, eh ben quand c'est 11 quoi. Et c'est tout. Et il y a comme ça deux langues en 10 et deux intonations très différentes.
Oui. 10 syllabes, je suis tout à fait d'accord. Je n'appellerai pas ça un décamètre.
Ah non, non.
Parce que justement, d'abord, il n'y a pas une allure qui est répétée. On n'a pas l'hypnose du décamètre. Si vous lisez, je sais pas, si vous lisez Le Cimetière Marin, par exemple, qui est le texte de Paul Valéry, qui est écrit en vers de 10 syllabes, et qui, en général, est 4 plus 6, on marche avec cette allure.
Bien sûr.
Ce toit tranquille où marchent des colombes.
Entre les pins palpitent, entre les tombes, bien sûr.
Oui. On n'a pas ça dans votre texte. Donc, on est déjà, par le choix de cette allure, dans un entre-deux. On se demande où on est.
Mais c'est ça, et c'est exactement pour ça. C'est que j'ai utilisé ce maître pour ça, parce qu'il est entre-deux. Et tout le livre, il est entre-deux. Entre deux lieux, plutôt même entre trois lieux, entre deux âges, et plutôt même entre trois âges, puisque finalement, les deux moments essentiels, ça, le moment essentiel du livre, c'est le moment où je me rends compte que ma mère a l'âge de ma grand-mère. Ce qui arrive finalement à tout le monde, mais qui est quand même quelque chose. Voilà. Donc voilà, comment... Voilà. Et ce qui signifie que moi, du coup, j'ai l'âge... voilà, que j'ai l'âge que j'ai. Et que je ne suis plus un jeune traducteur.
La danse des mots avec vous, André Markovitch, à propos de la parution de L'Appartement, dont j'aimerais bien lire un tout petit fragment, mais qui me paraît assez représentatif quand vous parlez justement du mouvement. Mmh. Car c'est le mouvement qui me portait, le flot, oui, ininterrompu du rythme de cette langue de Dostoïevski, que j'entendais, me semble-t-il, en russe, d'une façon encore plus intense, quand elle était passée par mon français. Et il fallait que je suive l'image de phrase en phrase, que je la découvre, que je la laisse, non, se découvrir, icône, feu secret, non appelante, si j'essaye de traduire une expression qui m'avait tant frappé, ça voulait dire qu'elle ne faisait rien pour révéler son existence, qu'on pouvait très bien ne pas la voir, que c'était sa nature en fait de ne pas être vue car elle était au centre, elle irradiait tout à partir du moment où vous l'aviez vue de vous-même sans qu'on vous le dise. Alors, on ne va pas plus loin pour l'instant. On se rend bien compte, je l'espère, en effet, que on n'a pas un décamètre qui se répète. D'abord, il n'y a pas de rime. Et ensuite, il n'y a pas de structure interne à chaque rime. Mais tout ce que vous écrivez est traversé par, justement, le problème de la traduction. En quelle langue est-ce que je pense? En quelle langue est-ce que j'entends? En quelle langue est-ce que je vais parler? Moi qui traduis déjà quand je lis un texte.
Eh ben, comment vous dire? Quand vous avez lu, en fait, moi, ce que j'entendais, c'était un beat, au terme de jazz particulier. C'est-à-dire, c'était toujours sur deux, mais l'accent change à l'intérieur du vers. Et ce vers, ce pentamètre, il marche comme ça. C'est-à-dire que c'est pas simplement 4, 6, mais ça peut être 2, 8, 6, 4, et ainsi de suite. La seule chose que ça ne peut pas être, c'est 5, 5.
Mm-hmm.
Voilà.
Et mais donc, il y a une pulsation qui se renouvelle à chaque nouveau vers.
Et c'est pour ça, et d'autant plus que c'est encore plus compliqué que ça, c'est une seule phrase sur tout le livre.
Oui.
Voilà. Et donc on peut pas s'arrêter. Et enfin, Je veux pas la mort de mon lecteur, Dieu m'en préserve. Mais voilà, on s'arrête pas.
Mais c'est vrai qu'on a du mal à s'arrêter.
Voilà.
On a du mal à trouver le point. Il n'y
voilà.
en a pas. On est chaque fois, il faut un souffle continu
mais
d'une
bien
certaine
sûr,
façon.
Si je mets le
un
point.
Un souffle cyclique.
Ben, mm-hmm. Si je mets le point, je suis mort. Parce que tout est une question du rapport entre le maître et le rythme. Tout le temps.
Alors, André Markovics, moi j'aimerais bien vous poser une question sur votre façon de lire un texte, puisque quand on lit celui que vous venez de faire paraître, on a l'impression qu'il y a chez vous une espèce de compulsion à traduire. Vous lisez un texte en russe, par exemple, vous le traduisez déjà. Vous le lisez et vous avez, d'une certaine façon, l'écho de ce qui pourrait être dans une autre langue. C'est-à-dire, vous lisez toujours en étant dans un entre-deux des deux langues qui sont les vôtres, c'est-à-dire essentiellement le russe et le français.
Alors, il y a deux choses différentes. La première chose, c'est que c'est ma façon de lire. J'ai un ami, j'en parle dans ce livre, qui disait « André, quand il aime, il veut traduire ».
Ah oui, mais vous le citez.
C'est une phrase
de votre livre,
voilà,
ça.
Voilà, absolument. Et c'est vrai que, eh ben, sans doute, je suis un traducteur, quoi, je ne peux pas faire autrement. Dès qu'il y a quelque chose que j'aime, j'ai envie de le traduire. D'autre part, traduire, c'est une façon de lire particulière. Parce que là, pour le coup, on lit pas simplement, on glisse pas comme ça sur la page, mais on regarde les mots. Mais là où c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est pas une question de langue. C'est une question d'auteur. Je ne traduis pas du russe. Je traduis des auteurs qui ont écrit en russe, mais il y a plein d'auteurs russes qui ne me disent rien ou que je serais absolument incapable de traduire. Et de même, c'est pour ça que ce pentamètre, à un certain moment, je me suis demandé s'il fallait pas que je mette parmi les poèmes russes un poème de Wordsworth. Parce qu'il écrit comme ça dans le prélude, c'est le vers du prélude, par exemple. Et je me suis dit non, ça je trouvais pas d'extrait qui aille, donc ça n'a pas marché. Mais, ça me dérange pas la langue de ce qui m'importe, c'est la conversation. C'est-à-dire que tel auteur prenne en compte tel autre pour reparler. C'est-à-dire de prendre en compte la culture à travers les langues, en quelque sorte en dépit des langues, c'est-à-dire en dépit des frontières, comme une conversation continue, et j'allais dire quasiment non-verbale.
Mais vous avez l'impression qu'il y a un lien presque organique, presque de parenté entre, par exemple, les auteurs que vous aimez traduire. Vous citez Tchekhov, vous citez Pushkin, vous citez Dostoïevski, oui. Armatova, oui. Il y en a plein. Ils sont de siècles différents, et ils sont de sexes différents. Ils ont écrit pour les uns des nouvelles, pour les autres du théâtre, les troisièmes d'immenses romans. Quand vous traduisez L'Idiot, c'est pas comme Dostoïevski, c'est pas comme de traduire une nouvelle de Tchekhov.
Bien sûr, Tchekhov, c'est un cas particulier parce que je le fais avec Françoise Morvan. C'est vraiment un cas tout à fait particulier. Mais par exemple pour L'Idiot, on peut pas lire L'Idiot si on n'a pas fait attention au fait que c'est une reprise d'une pièce de Pushkin qui fait 10 pages, qui est Mozart et Salieri. Et la question de L'Idiot, c'est sur la justice de Dieu, c'est-à-dire
la bassesse des hommes.
Oui.
Alors, vous traduisez du russe en français, est-ce que vous avez déjà traduit dans l'autre sens ?
Oui, et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible.
Alors pourquoi ?
J'ai voulu à un certain moment traduire un certain nombre de poèmes contemporains français, en russe, qui n'étaient pas traduits en russe, et je me suis rendu compte d'un truc, mes textes étaient naturellement grammaticalement corrects, et ils n'étaient juste pas du russe.
Pourquoi dites-vous que ce n'était pas du russe ?
Eh ben voilà. C'était pas du russe, parce que je n'entendais pas, d'abord autour de moi, le russe, et parce que ces textes ne s'inscrivaient pas dans une conversation.
Alors je vous pose la question inverse. Quand vous traduisez, par exemple, Dostoïevski, puisqu'on vient d'en parler, vous le traduisez en français, c'est du français ou c'est du russe ?
C'est, j'espère, du français qui est passé par le rythme et par la pensée et par les images d'un auteur russe, mais pas d'un auteur russe de Dostoïevski. Voilà, c'est-à-dire que la traduction est pour moi une façon très importante, comment vous dire, de trouver dans la langue française, dans la langue d'accueil, des intonations nouvelles, des esthétiques nouvelles, et que tout ce qu'on essaie de faire en traduisant, c'est justement de ne pas rendre français.
Et ta женщина увижу. И не имею Да потому-то понимаешь, не гляжу. Ох, не кукушка, не ромашкам я не верю, и к цыганкам, понимаешь, не хожу. Ох, не кукушка, не ромашкам я не верю, и к цыганкам, понимаешь, не хожу.
La danse des mots avec André Markovics, ce traducteur du russe en français, et donc pas du français au russe, à l'occasion de la parution de L'Appartement, qui est donc ce long poème ou ce long récit, émaillé en même temps d'un certain nombre de photographies. De photographies en noir et blanc, de photographies d'appartements, de pièces, d'un téléphone, d'un meuble. Ces photographies, c'est vous qui les avez prises, André Markovics?
Non, c'est Bérangère Janel, qui est une metteuse en scène avec laquelle j'ai travaillé sur Shakespeare, et qui est une amie à moi, et qui, à laquelle j'ai parlé de mon projet, et qui s'est prise de passion pour ce projet, et qui m'a accompagné dans le voyage que j'ai fait pour commencer à me débarrasser de cet appartement. J'en parlerai pas là, mais c'est une épopée qui continue. Et pour, en quelque sorte, le premier voyage, le voyage que je faisais pour commencer à partir. Et Bérangère m'a suivi, et a pris des photos, et j'ai trouvé ces photos très très belles, très fortes, et j'ai absolument tenu à ce que Bérangère fasse elle-même son propre chemin dans cet appartement. C'est elle-même qui a choisi les photos.
Oui, c'est elle qui a choisi ce qu'elle voulait prendre.
Qui a choisi la mise en page et l'ordre. Et donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment important.
Alors c'est un petit peu facile comme question, mais est-ce que vous avez l'impression que c'était aussi une traduction?
Bien sûr, c'était une traduction. C'est-à-dire, elle a traduit dans sa langue d'expression à elle, et donc elle s'est pénétrée et du texte qui était en train d'être écrit à ce moment-là. Et moi, naturellement, je changeais pas en fonction de ses photos, parce que d'autant plus que je ne les voyais pas. Mm-hmm. Elle me les montrait pas.
Ah, vous les avez vus après coup.
Oui. Bon. Et on les a, voilà. Et puis elle a traduit non pas le texte, mais son propre cheminement vers le texte.
Mm-hmm. Alors, est-ce que le déménagement est réussi? J'ai l'impression que si vous avez écrit ce texte, c'est un peu pour parler de l'appartement, mais vous débarrasser de l'appartement, pour quitter l'appartement.
Ben, c'est ça le problème. On a à la maison une expression triomphante qui s'appelle encore un échec. C'est quand...
Voilà. C'est l'argot d'appartement des Markovics.
Voilà, un peu ça, encore un échec. Et donc, c'est naturellement un échec total, puisqu'on ne peut pas quitter. Comment voulez-vous quitter? Mais oui, on quitte.
Ben écoutez, merci beaucoup de rester avec nous. On va vous accompagner dans cette façon d'abandonner votre appartement de Pétersbourg. Merci beaucoup André Markovics pour ce livre qui vient de paraître aux éditions Inculte. Et il est temps maintenant de retrouver bien sûr notre puce à l'oreille du mercredi.
Merci.
La puce à l'oreille.
Fans de stars et de cinéma, réjouissez-vous, car avec l'approche du Festival de Cannes, La Puce a décidé d'aller rebondir cette semaine du côté des enfants de la balle. Être un enfant de la balle, donc. Eh bien, une fois encore, pour tout vous dire sur cette nouvelle expression, c'est la star des lexicographes, Monsieur Jean Pruvot, qui est dans le studio avec moi et qui va me donner la réplique aujourd'hui. Avec nous aussi, les CE2 de Madame Chi, de l'école Chaumel à Paris, qui attrapent la balle au bond et se prêtent avec talent au jeu de la puce. On les écoute tout de suite.
Un enfant pas très poli, qui a pas été très bien élevé dans son enfance, et quand il est grand, il élève pas très bien ses enfants, donc ça fait une famille pas très bien élevée.
Bah peut-être que c'est un enfant qui est hyper fort en sport, et surtout le sport où il y a de la balle.
Être un enfant de famille riche, parce que parfois le mot balle, c'est aussi une expression qui veut dire argent. Par exemple, cette chose m'a coûté 30 balles.
On a été élevés à faire des jeux avec un ballon et que nos parents, déjà, ils avaient gagné des coupes et que du coup, on voulait faire la même chose. ça veut peut-être dire que on n'est pas fort en jeu avec une balle et que on s'entraîne et après on devient très fort.
Que ta passion, c'est le sport avec une balle, et dans ta chambre, il y a des affiches de batte, ton cartable, ça ressemble à une balle, tu te promènes tout le temps avec une balle dans la rue, ou tu joues tout le temps avec tes amis avec une balle.
Comme la balle tourne toujours, bah ça veut dire que c'est un enfant qui fait toujours la même chose.
La puce à l'oreille.
Alors, est-ce que ces enfants ont été mal élevés de génération en génération, riches ou très forts au jeu de balle au point d'en être omnibulés ou encore d'avoir la tête qui tourne comme une balle et de pas arrêter de changer d'idée? Encore une fois, il y a de l'idée. Est-ce qu'ils ont visé juste ces petits CE2, Jean?
Alors, moi, il y en a un qui m'a impressionné quand il évoque un enfant de famille riche parce qu'ils ont peut-être
pas mal.
Des balles, des sous. C'est déjà un étymologiste, hein, ceux qui s'intéressent à l'histoire des mots. C'est presque un enfant de la balle si son père est déjà passionné par, ou sa maman, par l'histoire des mots. Alors c'est pas ça, mais dans le fond, réfléchir comme ça à l'histoire des mots, c'est bien ce qu'il faut faire.
Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de la balle?
Ben, dans le fond, c'est être un enfant de comédien, d'artiste, quelqu'un qui, dans son enfance, a eu des parents qui étaient déjà dans le métier. Alors dans le métier, souvent d'artiste, mais dans le fond, on pourrait le dire aussi, imaginons que mes enfants se passionnent pour les dictionnaires et deviennent des spécialistes des dictionnaires, on pourrait peut-être dire ce sont des enfants de la balle. Hein, mais on le dit souvent quand même pour les artistes. Alors on voit bien qu'au cirque, c'est des générations entières, parce que tout petit, ils apprennent à jongler, et c'est un travail tellement long pour être bon que ce sont vraiment des enfants de la balle, pour le coup au sens propre, de la balle ici avec laquelle on joue. Alors il y a une origine possible avec balle, justement, BA2LE.
Alors justement, quelle est l'origine de cette expression? C'est l'origine qui date du 17e.
Voilà, si on cherche dans les tout premiers dictionnaires, celui de Furtière en 1690, ce dictionnaire universel, lui explique que c'est dû au jeu de paume et que dans le jeu de paume, qui est dans le fond l'ancêtre du tennis, c'est le fils d'un maître de jeu de paume.
Les tenanciers qu'on appelait donc les paumiers et les paumières.
C'est ça.
Mais
c'est
paumiers, exactement PAU.
Ça. Voilà. Et alors à ce moment-là, on disait qu'ils étaient très forts parce que depuis tout petit.
Oui, comme ils baignent dedans.
Voilà. C'est de là que vient le mot tennis. Hein. Tenez. Tennis, on disait, c'est passé en Angleterre pour le jeu de paume, tennis, et ça nous est revenu.
Et donc, ils devenaient des joueurs redoutables. Auxquels il ne faisait pas bon de se frotter.
Exactement.
Donc, ils jouaient en fait au tennis de père en fils, et ils faisaient carrière. Quoi.
C'est ça, enfant de la balle.
Donc,
c'est une interprétation.
Donc, il y a cette interprétation, mais à ce moment-là, tout le monde, effectivement, les médecins, les fils de médecins pour être des enfants de la balle, les fils de linguistes, comme vous le disiez tout à l'heure, pour être des enfants de la balle. Or, ça n'est pas le sens qu'a vraiment cette locution aujourd'hui. Elle est vraiment plus spécifique aux gens du spectacle. Pourquoi?
Alors, peut-être que aussi il y a l'idée de la balle qui est là, et j'évoquais le cirque, et ça joue un grand rôle. Hein. On sait bien que si on veut être un très bon jongleur, il faut l'avoir commencé vraiment tout petit, être très doué, s'entraîner des heures et des heures pour quelques minutes de spectacle. Il y a encore une autre interprétation qui est discutable, mais pourquoi pas. La balle, c'était aussi le paquet de marchandises enrobé d'une toile, et donc il y avait les porteurs de balles, BA2LE, hein, qui allaient de village en village avec dans ce paquet et bien toutes sortes de choses. Il y avait des livres, il y avait des tissus, il y avait des choses.
Le ballot, finalement.
Le ballot, c'est exactement
le
ça.
Le ballot que portaient justement ces populations nomades, circassiennes, qui se déplaçaient d'un point à un autre avec leur paquet et que donc...
C'est très vrai, mais c'est vrai aussi en France. Hein. C'est-à-dire que on a dit par exemple que Larousse était un enfant qui avait bénéficié de la balle des colporteurs.
Mmh.
Alors là, on a pu dire que peut-être la balle, dans ce cas-là, c'était des membres d'une association secrète de marchands de ce type, porteurs de balles. Alors bon, enfants de la balle, dans ce cas-là, ils sont initiés dès le départ. C'est vrai que le mot initié, d'ailleurs, correspond assez bien. Il y a une dernière interprétation, mais celle-là, j'y crois pas trop, mais enfin, il y en a encore une.
Dites-nous.
Bon, il s'agit des enfants d'imprimeurs, de typographes, et qui avaient un tampon, une balle, on appelait ça une balle parce que c'était rond, pour ancrer les différentes formes, les différents caractères. Et alors, évidemment, l'imprimerie, c'est souvent de père en fils aussi, hein. Ça s'apprend très tôt, enfin autrefois, et donc on disait aussi des enfants de la balle, des enfants de l'imprimerie. Alors vous voyez, c'est encore un autre sens.
En tout cas, c'est assez intéressant de remarquer qu'il y a plusieurs expressions qui viennent du jeu de paume. Il y a se renvoyer la balle.
Très bien, oui.
Saisir la balle au bond.
Exactement.
Faire faux bond.
Oui.
Amuser la galerie, une puce qu'on a déjà eu l'occasion de faire. Et être un enfant de la balle.
Eh ben voilà.
Qu'est-ce qu'il y a comme synonyme? J'en ai pas trouvé.
Alors, mais c'est bien aussi le problème qu'on rencontre, c'est-à-dire que quelquefois, une locution est tellement bien faite, une expression est tellement bien faite, qu'on sait pas trop la traduire. Il y aurait initié, il y aurait enfant favorisé. Mais vous voyez, ça colle pas, enfant favorisé, c'est pas bon. C'est pour ça qu'enfant de la balle, il faut l'apprendre, il faut le connaître.
Un enfant du sérail.
Un enfant du sérail, oui, mais alors vous voyez, le sérail, c'est un peu connoté négativement. Hein. On parle du sérail politique, mais en mauvais termes. Du sérail, bon, sexuel, alors n'en parlons pas. Enfant de la balle est quand même ce qui est le plus joli. Parce que il y a cette idée d'artiste aussi.
Et figurez-vous que bien j'ai eu du mal à trouver des équivalents autour du monde, à part en Italie où on dit un fils d'art.
Ah
voilà.
Oui.
Et en Angleterre, une personne née dans la profession, donc autant dire qu'il n'y a pas d'expression, très clair. Bon, voilà. Et vous, mon cher Jean, êtes-vous un enfant de la balle alors ?
Je sais pas, mes parents étaient profs de sténodactylo, donc c'était les sons et les doigts, les lettres au bout des doigts, et donc ça m'a poussé vers les dictionnaires. Donc oui, un petit peu un enfant de la balle.
Quelle chance. Eh bien, en attendant de nous retrouver la semaine prochaine pour une dernière expression, je vous propose d'aller visiter la page de la puce à l'oreille sur le site de RFI Savoir pour réviser vos gammes. Je vous propose également de vous procurer votre dernier ouvrage, Jean Pruvot, paru aux éditions Honoré Champion, qui vient tout juste de sortir et qui s'appelle « Plein feu sur nos dictionnaires en 2500 citations ». Et pour nous donner de l'inspiration, eh bien on se quitte en chanson avec Eddy Constantine. Bonne semaine à tous.
Merci bien Lucie Vouteloup pour cette puce. Dans cette danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopée et par RFI, Véronique Durand, Lucie Vouteloup, Yvan Hamar.
Mon paternel qui n'avait pas les pieds plats m'a appris le chimie, les claquettes, etc. Et m'a dit pour gagner ta pitance, la danse, y'a que ça. Mon naturel, moi, c'est d'être obéissant. J'ai suivi ses conseils, mon métier, je l'ai dans le sang. Et ma vie, c'est la vie des artistes, en piste, tout le temps. Un enfant de la balle, ça fait ses mal. Et ça se trimballe partout, n'importe où.